Alors, pour les auditeurs de Du, je vais poursuivre en invitant l'artiste Gwendal Raymond à me rejoindre sur le live. Hi.
Hello.
Ça va?
Oui, toi?
Ah, j'adore. Je savais pas si t'allais le faire ou pas. C'est une coquetterie, oui. Une jolie coquetterie.
Oui.
Ça va, Gwendal? Ça fait longtemps?
Écoute, bah ouais, ça fait super longtemps. Très,
ouais,
très longtemps.
Entre les moments où on s'est croisés au point éphémère et dans le métro par hasard.
Exactement.
C'est, voilà. Du coup, tu nous as préparé des petites lectures.
Ouais, des petites.
Je sais pas pourquoi je dis petites, en plus ça n'a aucun sens. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter avant de commencer, présenter un peu ton travail?
Ouais. Alors, du coup, moi, c'est Gwendal Raymond et je suis la plupart du temps danseur. Donc, je danse la danse contemporaine depuis maintenant un peu plus d'un an et demi. Enfin, je suis sorti de formation et j'ai direct commencé assez vite. Et avant ça, j'ai eu un parcours aux Beaux-Arts, ce qui fait que y a des résurgences et la danse contemporaine aussi un outil pour moi pour éventuellement après faire des performances pour évoluer dans les milieux plutôt queer, disons, où je fais des performances. Ça a commencé un peu par le drag, ce qu'on appelle le drag queen. Et donc, il y a une première version de moi avec des cheveux longs et tout ça. Enfin, une perruque, quoi. Et petit à petit, l'univers s'est décalé et très inspiré aussi par le mouvement Club Kid des années 90 à New York et tout ça. Plus tous les réseaux sociaux qui aident quand même à croiser, à se faire rencontrer pas mal de gens et de créativité. Donc, ça a amené... tout un univers visuel entre danse, performance et voilà. Très drôle, Noc.
Ouais, c'est clair.
C'est le filtre Raymond.
Ouais. Ok, bah super. Et du coup, ce soir, tu nous as préparé quelques lectures.
Ouais, il y en a au moins trois sur...
4
ouais.
4 d'auteurs différents. Sure. Comment tu comment t'as réuni un peu ces lectures Mais déjà, est-ce que la pratique de la lecture elle a fait partie de ton travail dès le départ ou...
Assez, ben, par exemple là la pratique de la lecture je rebondis sur ce truc là parce que je me lance aussi en tant que chorégraphe, donc je vais essayer de monter un spectacle et qui s'appelle Guerz, qui parle des chants traditionnels bretons, enfin d'un certain type de chants, c'est des complaintes, donc ils sont souvent très tristes et qui racontent des faits divers de la Bretagne. Et du coup, là, je suis tombé sur une thèse qui est juste à côté de moi, là, un gros pavé, tac, boum boum, qui parle justement des plaintes et des complaintes en langue bretonne, ou en Bretagne en tout cas. Et c'est toute une étude, donc en fait, mon travail de chorégraphe a commencé avec ce bouquin, très précisément.
Ok, wow.
Et ensuite, c'est parti, on a eu une première semaine de résidence en février au Théâtre du Vent des Cygnes à Toulouse. Et du coup, suite à ça, j'ai pu aussi, moi, affiner. Et, ça. Mais en tout cas, la lecture dans ce cadre-là a commencé...
Pour, du coup, enchaîner sur l'écriture, enfin l'écriture de la danse, donc d'une forme de partition aussi, tu fais en tant que chorégraphe.
Ouais, il y a toute une partie partition. Alors ça, il y a aussi, donc je suis aidé aussi par un dramaturge, Gilles Jacinto s'appelle, et qui est entre autres mon compagnon de vie. mais en tout cas, la dramaturgie aussi, ça c'est une écriture, par exemple. Ça, c'est la prochaine étape sur laquelle je dois me pencher, parce qu'on a en gros déblayé avec les danseuses, donc il y a 3 danseuses dans le spectacle. Moi, je ne danse pas du tout, je suis vraiment chorégraphe. Et donc, avec les danseuses, on a un peu déblayé ce que pourrait être ce spectacle, comment danser, comment se déplacer, etc., les différents niveaux, parce que ça va parler de plusieurs époques différentes. Et donc, on a fait un premier déblayage, et suite à ça, là, il va y avoir un travail d'écriture et de partition, mais qui va aussi définir plutôt une trame, pas forcément narrative, mais une trame avec des éléments. Donc, ça commence là, après, on bascule sur un autre tableau. Enfin, en gros, si je caricature un peu, ça va séquencer des tableaux. Un peu comme sur une timeline et pour faire de la vidéo, quoi, du montage.
Ok. Et
Voilà.
comment on arrive à faire un projet? Enfin, là, j'imagine que tu as quand même eu aussi l'envie de séparer ta pratique de danseur à celle du chorégraphe en ne dansant pas ton. Enfin, comment en fait on prend la décision de ne pas intervenir dans l'œuvre qu'on est en train de réaliser?
C'est entre autres aussi parce que j'ai pu voir ou entendre ou je sais pas, enfin j'ai fait un stage avec une chorégraphe avec qui je danse actuellement d'ailleurs maintenant, qui s'appelle Aina Allegri. Et quand j'ai fait le stage avec elle, c'était sur sa création, enfin pas dans celle dans laquelle je danse, mais une création précédente, antérieure. Et du coup, elle était à la fois dans les deux. Elle était chorégraphe et sur scène aussi. Et du coup, ça a pu pour moi faire une première expérience. Elle arrivait très bien, etc. Mais moi, je me suis dit, moi, je préfère, déjà, vu que déjà la première pièce que j'ai aussi envie qu'elle puisse se montrer à des publics et que je puisse la montrer sur scène, quoi. On va pas tout mélanger d'un coup, on verra peut-être plus tard, mais je trouve que c'est bien de séquencer aussi les rôles, et avec l'apport que j'ai en tant que danseur, je peux aussi du coup devenir chorégraphe, mais juste à cet endroit-là. Et comme ça aussi, j'ai un regard plus périphérique, entre guillemets, sur ce qui se passe, quoi. Je suis moins impliqué dans la forme dansée, mais... C'est tout le travail de réflexion et tout ça, là, c'est mon
Ouais, puis
plus.
pour une première, c'est enfin parce que parfois j'ai entendu il y a dans le cinéma des réalisateurs qui jouent dans leur propre film et qui à un moment disent enfin, peuvent dire, quand je sens qu'il y a un rôle pour moi, un rôle que je peux jouer, alors j'y vais. Et puis parfois, j'écris des scénarios et finalement, il se passe rien pour moi de ce côté-là. Et du coup, je reste du côté du réalisateur, tu vois.
Ouais, ben voilà, c'est ça.
Ouais.
C'est un peu l'idée. Et puis là aussi, j'avais cette image, vu que ça parle de complaintes, de plaintes, de chants autour de la mort et tout ça. Truc pas très très joyeux, quoi. J'avais un peu l'image en tête des moires, des trois moires dans la mythologie gréco-romaine, ou grecque, ou romaine, ou une des deux. Mais grec, il me semble, enfin, ça paraît quoi. Et du coup, c'était trois vieilles femmes, et je sais pas, hop, association d'idées, je me suis dit, je veux que ce soit dansé aussi par des femmes.
Oui, parce que c'est un chiffre qui est pas évident aussi, 3.
Ouais,
C'est
bah,
pas
c'est
beaucoup, mais
aussi
c'est quand même.
ça a été hyper dur à choisir, parce que je me suis dit, bon, par exemple, si on réfléchit aussi sur des questions... budgétaire ou d'argent, enfin pécuniaire. Il est clair que c'est beaucoup plus facile de monter un solo que de monter un truc avec déjà au moins 3, 4, 5 personnes. Et du coup, moi, les solos, c'est une forme que j'ai, en tout cas, c'est pas celle vers laquelle je vais directement en tant que spectateur et aussi en tant que créateur, quoi. J'ai vraiment du mal à aller directement vers le solo, mais sinon après c'était deux, bon bah pas deux, après trois ça semblait un bon chiffre, quatre ça commençait déjà à faire beaucoup pour les questions de tu vois budgétaires, genre trouver un budget sachant que bah, je suis petit chorégraphe à Toulouse, pas du tout connu, qui a même pas encore de structure associative ou de compagnie, et du coup voilà, et demander de l'argent alors que personne ne te connaît dans les institutions pour dire genre oui, il faudra payer 4 ou 5 danseurs et danseuses. Bon, là, ça commence à faire, ça commençait à faire beaucoup. Donc 3, ça semblait à la fois un chiffre qui est plutôt pas mal parce que c'est impair et je sais pas, sur scène, c'est plus facile de concevoir un truc avec un chiffre impair qu'avec un chiffre pair. Et aux questions budgétaires, ça paraissait bon, un bon compromis entre.
Ah ouais, mais c'est
En
marrant
tout cas, c'est faisable.
que tu dises que c'est plus facile à un nombre impair. Parce que, enfin, moi qui suis de l'extérieur, qui est vraiment pas énormément de connaissances en la matière, c'est vrai que du coup, ça crée tout de suite une asymétrie, quoi, hein, le chiffre impair.
Ben ouais, c'est ça qui est. En tout cas, moi qui m'intéresse.
Ok.
Même si je dis pas que quand je vois des chiffres pairs, enfin quand je vois 4 danseuses ou 6 danseurs sur scène, je fais oh mon Dieu, quelle horreur. Mais tout de suite, c'est beaucoup plus équilibré. Donc en fait, c'est finalement beaucoup plus dur de.
Ouais,
Enfin,
c'est
j'ai
clair.
l'impression, hein, mais c'est des impressions après, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur de mettre en scène genre un chiffre pair de
Ouais,
danseur ou
c'est
de danseuse qu'un chiffre pair. Mais bon, ça, c'est une lubie très personnelle.
ça. Ok.
Voilà.
Du coup, tu veux commencer par quel texte?
Alors du coup, je vais commencer par Les chemins égarés. C'est géographie sociale des lieux de sexualité entre hommes. Et donc c'est comment dire, il y a des photographies de Amélie Landry dedans. Et les textes sont de Mathieu Riboulet ou de Laurent Guessade. Et en fait, il y a aussi plein de collectages de témoignages d'hommes qui crousent, quoi. En fait, on appelle ça crouser, qui vont sur les lieux de rencontre. Et ça, finalement, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse assez particulièrement, en tout cas, ces zones de rencontre et de cruising. Et j'avais fait un mémoire aux Beaux-Arts un peu qui. En tout cas, qui à un moment donné balayait cette question-là. Parce que bon, c'est le mémoire Beaux-Arts, c'était il y a longtemps, et du coup, bon, c'était pas non plus. Bon, disons qu'il y avait des pistes, et en fait, il y a des trucs quand même qui reviennent un peu dans les.
Oui, voilà, ça t'a jamais lâché finalement.
Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est des. Je sais pas, c'est des lieux qui sont vraiment super. Super étonnant. Et du coup, je vais lire un témoignage de Hervé. Et à chaque fois, donc, c'est écrit donc le prénom et la région d'où il vient. Et Hervé vient de Bretagne. Alors, c'est pas, ça va pas être un live genre 100% Bretagne, mais il se trouve que son témoignage est suffisamment long et en plus assez intéressant et qui décrit pas mal d'aspects que je trouve moins. Intéressant et important dans ces lieux d'échange et de rencontre. Donc je commence. Dans les lieux de rencontre, il y a des pratiques, des méthodes pour communiquer qui ne sont pas autorisées ailleurs. Dans notre société, les gens n'osent pas se toucher. Ils ne peuvent le faire que ils sont en couple, si les choses sont organisées, acceptées. Ces lieux, au contraire, le permettent. On y a accès à quelque chose de sauvage, d'animal que j'aime beaucoup. Dans ces rapports, le verbe peut être complètement absent. Les hommes se rapprochent, se touchent, peuvent rester un long moment à échanger, à partager des choses très fortes, parfois sans même avoir entendu le son de leur voix. Je trouve ça assez beau. Il y a le langage du corps, de la caresse, de tout un acte sexuel sans connaître le prénom de l'autre. Même si personnellement, après une rencontre comme ça, j'aime bien demander à la personne comment elle s'appelle. Sinon, je trouve intéressant de ne pas avoir à parler. Il y a de la poésie dans tout ça, parce que justement, ce que les hommes vont chercher, c'est de la caresse ou de la violence, mais c'est une forme de poésie. Le labyrinthe, on s'y perd géographiquement, mais aussi dans la pensée. On cherche à aller au fond de soi, dans les profondeurs. Dans le monde actuel, certains portent une souffrance parce qu'ils ne se connaissent pas. Ils vivent des choses superficielles qui ne leur suffisent plus. Le labyrinthe des bois ou des lieux de drague me fait penser à ce que l'on recherche dans l'ivresse. Par l'alcool, parce que c'est légal, ou par d'autres produits, ils se coupent de la réalité. Ils se coupent d'eux-mêmes aussi d'une partie. D'autres arrivent à le faire par la méditation. Si l'on parle de sexualité, il y a ceux pour qui Alors, pardon. Si l'on parle de sexualité, il y a ceux pour qui certains désirs sont insupportables. En arrêtant la pensée, ils ont accès à certaines choses, à un contact sauvage avec l'autre, un contact où les classes sociales sont abolies. C'est curieux, presque amusant, quand des gens cherchent à détruire ce labyrinthe, ces endroits isolés où personne ne se promène. Ils veulent interdire une activité qui, on pourrait le croire, ne les concerne pas. Un élu qui intervient par exemple pour un bois où personne ne va à part les renards et les grenouilles et décide de débloquer un budget pour raser les buissons pour que les hommes ne s'y rencontrent plus, il est concerné. Il a un problème avec ça, sinon il ne s'en occuperait pas. Parfois, c'est les voisins qui lui disent « On sait qu'il y a des gens qui se rencontrent là, ça nous gêne. » S'il était complètement équilibré, il répondrait « Vous avez raison, mais j'ai aussi remarqué qu'à l'autre bout du village, il y a des champs entiers où les lapins font la même chose. Il faudrait qu'on rase l'herbe. » Dans un endroit sauvage, restez 20 minutes sans bouger et vous verrez les oiseaux arriver. C'est pareil sur un parking, un tout petit peu isolé. Bon, il y a aussi certains critères que seuls les initiés peuvent connaître. C'est comme les chasseurs ou les pêcheurs, ils ont des secrets pour savoir que là, tout à coup, l'animal va passer. C'est la même chose. Tu repères le petit bois, les chemins, tu restes une demi-heure et tu vas les voir arriver. Il y a ce besoin naturel, naturel et gratuit. C'est quand même génial aujourd'hui où tout est payant. On sait que la seule chose que l'on ne peut pas acheter, c'est l'amour. La sexualité aussi peut être partagée gratuitement. Et quand c'est dans la nature, c'est très beau. C'est aussi ça que je trouve agréable, un partage sans que ce soit organisé. Bien sûr, il y a une forme d'organisation, mais elle est inconsciente, tant pour soi-même que pour le lieu. Il n'y a pas un conseil municipal qui s'est réuni et a dit « Bon, on va faire les trois allées à droite, une allée à gauche. » La rencontre en elle-même a aussi quelque chose de magique. À un moment donné, quelque chose va se passer, puis ce sera terminé, on ne se reverra peut-être jamais. Il n'y aura rien d'inscrit, pas de ticket de caisse, rien de gravé, c'est beau. Le labyrinthe permet ça. J'ai un souvenir qui est très fort sur une aire d'autoroute près de mon travail. J'y allais beaucoup et un jour j'ai rencontré un garçon que j'ai revu très souvent par la suite au même endroit. Il s'arrêtait avant de rentrer chez lui pour retrouver sa copine. On s'est enlacé, on a fait l'amour et d'un coup, il s'est mis à pleuvoir. Il s'est mis à pleuvoir, pardon. Je me souviens lui avoir dit, qu'est-ce qu'on fait? On reste? C'était la première fois de ma vie que je sentais à la fois la pluie qui coulait sur la peau et sur ma peau et le corps d'un autre qui me réchauffait. Une chaleur très forte, c'était merveilleux. Si on avait eu peur de se mouiller, ce moment se serait arrêté et on ne se serait jamais revu. C'était une première fois. Il pouvait ne pas y en avoir d'autres. Voilà. Et donc là-dedans. Il y a plusieurs choses et qui vont en fait se retrouver dans d'autres livres. Et je n'ai pas répondu à ta question sur comment j'ai fait le choix des textes. C'est un peu. Bon, c'est des textes ou des livres que j'aime ou que j'affectionne. C'est un peu genre les vedettes de la bibliothèque, quoi. Et du coup, là-dedans, il y a pour moi tout aussi un vocabulaire chorégraphique dans la manière d'effectuer des rencontres. Il va y avoir aussi des correspondances avec un autre texte d'Isabelle Sengers que je vais lire après sur en fait une sorte. Non, sur Tim Ingold, pardon. Sur des organisations et des sortes d'organisations, mais qui sont ouais, ça me fait penser je sais pas, au réseau des plantes ou des animaux, tu vois, il y a un truc qui s'organise, mais qui ne se dit pas organisé. Enfin, tu vois, c'est un peu la nuance. Il n'y a pas une organisation en amont pour dire, bon, ben, ok, à telle heure, rendez-vous à midi derrière le bosquet, ce qui peut exister. Mais là, c'est un peu une sorte de chemin d'errance où il y a plein de chemins. Enfin, c'est très, 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 très drôle hein, comment c'est construit parce qu'à force de passage, les sillons se tracent, quoi. Mais avant, c'est une sorte de nature sauvage, entre guillemets. Enfin, il y a toute une. Ouais, enfin, lui, il parle de labyrinthe, de géographie, etc. Tout ce vocabulaire-là, c'est quelque chose que je trouve. Assez intéressant.
Pour Nox, c'est apparemment le rêve anarchiste.
Mais oui, en fait, c'est pas loin de ça, hein. Enfin, ou c'est assez proche de ça, finalement.
Merci
Et
Macron, ces commentaires, non.
il y a aussi la fin du texte, qui est un texte à la fin du livre. Donc, il y a plein de photos qui sont très chouettes et très, 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 très belles. Un peu romancées, poétiques, tu vois, sur ces lieux de rencontre. Hein. C'est très. Et donc, le texte s'appelle Du registre des bêtes. Et c'est écrit par Mathieu Riboulet. Et juste le dernier paragraphe, je le trouve assez sympa et fait écho aussi sur des choses que vous avez pu dire dans le live d'avant, sur l'écriture et tout ça,
D'accord.
le geste, l'écriture, que je trouve plutôt intéressant. Et même sur toi, sur tes questionnements ou tes centres d'intérêt, en tout cas autour de l'écriture, de l'édition et du livre, que je trouve plutôt pas mal. Donc c'est juste le dernier paragraphe, mais c'est pas très très gênant que ça commence d'un coup. Après, j'ai raconté. Raconter prend du temps, le temps qu'il faut pour lire dans nos propres entrailles. L'historien italien Carlo Ginzburg, auquel j'ai emprunté ici les trois termes pivots formant chez lui titre d'un recueil de textes d'époques diverses, mythes, emblèmes et traces. Donc c'est aux éditions Poche, voilà. Écrit dans l'un de ses textes intitulé justement Traces. Donc il écrit: Ce qui caractérise ce savoir relatif à la chasse, c'est la capacité de remonter à partir de faits expérimentaux apparemment négligeables à une réalité complexe qui n'est pas directement expérimentable. On peut ajouter que ces faits sont toujours disposés par l'observateur de manière à donner lieu à une séquence narrative dont la formulation la plus simple pourrait être « Quelqu'un est passé par là ». Peut-être l'idée même de narration est-elle née pour la première fois dans une société de chasseurs de l'expérience du déchiffrement des traces. Ginzburg prend soin de préciser que son hypothèse est indémontrable, comme reste indémontrable la certitude acquise au long de ces 10 ans d'affût, de guet, de chasse et de désir solaire, qu'entre désir et texte circule un flux nerveux, tendu, opaque et dense, animant d'un tenant et le désir d'amour et le désir de dire. Donc là, le parallèle entre ce qu'il cite de Carlo Ginzburg sur la trace, la chasse, etc., et le parallèle avec déjà sa propre vie en tant que personne ayant fréquenté ces lieux pendant moins 10 ans. Et en plus, un autre parallèle sur l'écriture et sur le désir d'écriture ou de dire des choses et de raconter. Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai voulu reprendre ce dernier petit bout-là qui me semblait
Oui, puis il y a quelque chose
important.
presque de pariétal au rapport à l'écriture avec cette histoire de chasseur, de trace
Oui.
qui permet aussi d'arriver à son point, à sa destination, qui est l'animal. Enfin, on sort de l'écriture, c'est-à-dire de la lettre et de l'alphabet, on vient vraiment à presque quelque chose de très primaire chez l'homme, quoi. Enfin, c'est-à-dire comment aussi on se reconnaît, tu vois, en
Oui,
termes
c'est
de...
ça. Ouais, ouais,
Ouais.
ouais. Et aussi pour continuer, enfin finir et un peu conclure là-dessus, mais c'est tout le langage, et c'est aussi pour ça que je trouve ça très chorégraphique, tout le langage qui est développé, parce que comme le dit Hervé de Bretagne dans son témoignage, il y a souvent très peu de paroles, de dialogues ou d'échanges. Enfin, souvent, en tout cas, c'est aussi. Personnellement, je n'ai pas fait l'expérience encore de ces lieux-là. J'ai pu aller en visiter. Mais je n'ai pas fait l'expérience jusqu'au bout, tu vois, j'ai pas été jusqu'au bout de l'expérience totale. Mais en tout cas, oui, c'est tout ce qui m'intéresse. Pardon, il y a plein de pensées à la fois. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce dialogue, du coup, qui est de l'ordre de la gestuelle et qui va réussir à définir, du coup, enfin, je repense à un texte que j'ai lu, enfin, je repense là à un texte que j'ai lu qui s'appelle Le commerce des pissotières, qui est écrit par un sociologue qui s'appelle Lode Humphrey et qui du coup décrit tous les rapports entre les corps des hommes dans les toilettes, donc qui ont été des hauts lieux de rencontre. Et il décrit en fait que par différents positionnements et différents types de regards et d'approches, ça va définir ensuite le rapport entre les deux hommes, donc à savoir qui va faire actif, qui va faire passif, quoi. Et ça, et donc il y a tout un langage donc sensoriel, tu vois, qui du coup pour moi me fait énormément penser à la danse, hein, finalement,
Ouais,
et
dans
qui se
le
recoupe en tout cas avec des choses qu'on peut faire dans la danse. Mais il y a tout ce rapport entre les corps, mais enfin, en tout cas muet, sans mots, mais qui vient aussi donc définir l'action future et les rôles des futurs donc des futurs amants du moment, quoi. Et aussi une autre chose qui du coup rejoint l'écriture, le texte et la chorégraphie, c'est que par exemple dans les terrains vagues, il y a au fur et à mesure des passages, ça vient dessiner et écrire des chemins et des sentiers, quoi. Voilà, en
Et
gros.
ça rejoint aussi ce que ce que tu as lu au début. Et à un moment, il y a cette phrase à ne pas parler comme forme de poésie.
Oui, c'est ça, ouais. Ouais.
Et ce qui est d'ailleurs un peu aussi en contradiction avec ce que Luce disait hier, je crois,
Oui.
sur le fait que justement, dans la manière de s'intéresser aux gens, enfin de comment on les connaît vraiment finalement en leur posant des questions et à travers les textes que tu lis ce soir, ça pourrait être aussi les connaître par le corps et par la gestuelle et par le mouvement. Donc, voilà.
Elle parlait du silence comme dialogue.
Oui, aussi, elle parlait du silence comme dialogue.
Très bien.
C'est vrai.
Merci Noc pour ces
Oui,
petites
merci, Noc. C'est mon...
notes.
C'est notre chroniqueur.
Et du coup, je sais pas si j'enseigne ou comment, si tu
Ouais,
as
carrément.
des questions ou je sais pas comment.
Non, ben là, écoute, à part cette histoire de ne pas parler comme forme de poésie, et je trouve que cette phrase,
Est-ce qui
enfin, elle
oui,
résonne.
c'est ça. Ce qui m'amène au deuxième texte que il est là, d'Isabelle Stengers, je vous montre, et qui s'appelle Résister au désastre. Donc Isabelle Stengers, cœur sur elle quand même. Je sais pas si tu la connais un peu.
Moi, je ne connais pas.
C'est une nana vachement branchée sur les questions, en tout cas d'écologie, féminisme. Elle s'inscrit plus ou moins dans la lignée Haraway
OK.
et qui d'autre. Elle a pu, je crois qu'elle avait été aux côtés de Starhawk aussi aux États-Unis. Enfin
Et
voilà.
tu l'as
C'était
découverte quand?
moi, je l'ai découverte grâce à un super prof aux Beaux-Arts. Il s'appelle Jean-Philippe Algan. Et d'ailleurs, je pense que, en fait, dans ce truc-là, enfin, dans les textes que j'ai lus, ça, Teeming Gold, c'est aussi c'est une grosse case dédiée
À
à
Jean-Philippe.
Jean-Philippe. Mais c'est un peu lui qui m'a fait découvrir. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que sur le moment, sur les cours, bon, à la fois, j'écoutais. J'avoue, pas forcément tout le temps, mais bon, j'ai réussi à choper des trucs. Et finalement, c'est que une fois sorti des Beaux-Arts que tous ces textes me sont revenus en trombe, où je me suis dit, ah mais oui, mais c'est vrai qu'il avait parlé de ça, il faut que je m'y intéresse, il faut que j'aille jeter un œil. Et du coup, j'ai carrément acheté les bouquins et j'ai commencé à les lire. Et là, je me dis, ah ouais, ok, trop bien.
Ouais, c'était ta forme de rébellion de l'époque.
Rébellion, je sais pas, mais.
De pas les lire tout de suite. Non, mais
Ouais,
c'est.
je sais pas, il y avait une certaine flemme ou je sais pas, il y avait
Ouais.
un truc un peu pas encore désintéressé. Puis après, il y a la danse qui arrivait, donc je me suis foutu à fond dans la danse. Et puis du coup, voilà.
Ouais,
Mais
voilà, c'était plutôt faire, quoi. Il
ouais,
fallait
c'est
faire
plutôt. Ouais, il fallait trouver
action, quoi.
le. Exactement. Et donc là-dedans, je vais lire plusieurs choses. Donc c'est un entretien. un entretien, un dialogue qu'elle a fait avec Marin Schnaffner. Et du coup, donc il y a la question, et puis après, il y a Isabelle Stengers qui répond aux questions. Donc, la première question, enfin, j'ai pris deux questions comme ça dans le bouquin, et parce que les réponses d'Isabelle me semblent à la fois assez intéressantes et font écho, lien toujours avec à la fois mes questionnements et la manière dont j'ai choisi les livres et comment ils se croisent et tout ça. Donc, la question est, pensez-vous qu'avec l'écologie, la frontière entre sciences naturelles et sciences sociales se brouille? Dans les faits, il y a certainement un conformisme des disciplines, et elles s'en font d'ailleurs gloire. Ne dit-on pas que chaque science crée son objet? Excellente manière de faire régner les définitions disciplinaires sans prendre en charge leurs conséquences, et aussi de transformer certains mots en étendards pour des guerres de tranchées. Par exemple, le mot naturalisme, au nom duquel toute transversalité sera dénoncée comme menace d'une réduction de l'humain à ce qu'on appelle nature, c'est-à-dire au nom de l'épouvantail d'une nature soumise à des lois. Mais à mesure que les questions écologiques s'affinent, la notion de loi s'efface. Aujourd'hui, quand on parle d'écologie, on parle d'événements, on parle de processus, de métamorphose, de résurgence. Et ce sont autant de mots qui peuvent voyager en produisant des intérêts nouveaux, sans recréer la moindre position de surplomb scientifique. Donc, le sens que l'on donne à intelligibilité a muté. Il ne s'agit plus désormais de comprendre des lois. Les sciences réductionnistes, celles à craindre, étaient des sciences de la dépendance, qui cherchaient à comprendre de quoi dépendait un comportement. Mais, dès lors que l'on va vers l'interdépendance, de quoi un comportement a besoin, par quoi il est mis en risque, à quoi il rend sensible, comment il peut muter, etc. On change le sens du mot intelligibilité et donc, par extension, la position même de celui ou celle qui décrit. C'est difficile à dater, mais il y a des glissements en cours qui sont des modifications de la manière dont nos savoirs sont cultivés. Aujourd'hui, on voit les signes de ce que j'appellerai à la suite de Deleuze et Guattari une involution. Pas une évolution de nos savoirs vers plus de sophistication, mais une espèce de déshabituation, de désintoxication. Il s'agit de défaire les réflexes, les méthodes, les idéaux d'intelligibilité qui bloquaient ces sciences dans une indifférence hostile pour que quelque chose de nouveau émerge. Il y a donc plein de nouvelles histoires qui sont en train d'être produites, comme le Homo domesticus de James Scott ou le Comment notre monde est devenu cheap de Raj Patel et Jason Moore, qui rompent avec l'idée que les humains font l'histoire à eux tout seuls. On est de moins en moins capable de parler des histoires humaines sans leurs aventures, avec leur milieu, la manière dont ils les transforment et sont transformés par eux. Et une historienne comme Silvia Federici, dans Caliban et la sorcière, montre que l'expropriation des communs en Europe et dans les terres colonisées a fabriqué non seulement la nature, mais aussi la femme comme objet d'accaparement. Aucune de ces histoires n'est neutre, mais c'est aussi cela l'écologie. Dès que l'on cesse de séparer les conquêtes humaines de leurs répercussions multiples, il n'y a plus besoin de dénoncer, le pouvoir anesthésiant de l'idée de progrès s'estompe. Et l'une des penseuses qui, me semble-t-il, accompagne ce mouvement de la manière la plus opérante et innovante, c'est Donna Haraway. Avec notamment cette idée que les sciences ou les récits importent peu sont des exceptions, qu'il faut prendre soin de nos manières de raconter, car c'est le récit qui rend intelligible, pas la bonne définition. Dans cette perspective-là, l'opposition routinière entre les sciences sociales humaines et les sciences de la nature est une absurdité stérilisante. Et ce qui m'amène à la deuxième question qu'on lui pose. La question suivante, juste après, c'est la relation qu'elle entretient avec Donna Haraway. Et du coup, je saute direct sur la question d'après. Donc, c'est cela la sympoïèse, cette co-création permanente du vivant dont parle Donna Haraway? Oui, la sympoïèse, qui signifie simplement faire avec ou faire grâce aux autres et au risque des autres. Les vivants sont tous actifs, ils font. mais ce qu'ils font implique, présuppose ou crée des rapports les uns avec les autres. Ils sont impliqués les uns avec les autres. Et ensemble, ils font des mondes. Une forêt est un monde. Un récif corallien est un monde. La rationalité qui nous fait privilégier les monocultures dans les champs ou à l'école est destructrice de monde. Et les corps eux-mêmes ne fonctionnent pas comme un tout à fait... Pardon. Et les corps eux-mêmes ne fonctionnent pas comme un tout fait de parties ayant chacun leur rôle, ce sont des sites de partenariats enchevêtrés, aventurés et métaphoriques. Bref, c'est avec cette biologie qu'Haraway a pu penser en confiance comme un changement de milieu, une nouvelle liberté de penser avec et pas malgré. C'est à cette époque que mes rapports avec elle ont commencé à être plus denses et elle est devenue une vraie compagne de pensée. Auparavant, je l'appréciais intellectuellement, mais je me méfiais un peu de la dimension post-humaniste associée à son œuvre. Le cyborg qui avait fait sa célébrité était devenu, malgré elle, une figure à la mode. Mais dorénavant, elle propose à ses collègues qui parlent de post-humanisme de penser plutôt compost, ce qui recoupe également cette idée d'involution dont je parlais précédemment. Dans un compost, les identités se défont et de nouvelles compositions deviennent possibles. Ce qui compte, ce sont les transformations mutuelles, pas la reproduction de lignées ou d'identités spécifiques. Mais toutes ces involutions font partie de la nouvelle donne, de la nécessité de penser avec ce qui arrive. Personne n'était vraiment préparé à ce que j'ai appelé l'intrusion de Gaïa. Cela crée des liens, fait sentir que nous avons besoin les uns des autres. Cela nous a fait bouger, et quand je dis nous, c'est toutes celles et ceux qui essaient de penser d'une manière qu'Haraway appelle responsable, c'est-à-dire capable de répondre devant ceux qui vont prendre en pleine figure les conséquences de ce que l'on a appelé le progrès. On sait qu'on ne peut plus penser comme avant, qu'il faut prendre des risques pour fabriquer de la pensée, qu'il soit au mieux utile ou au moins pas nuisible pour ceux qui viennent. Et si on ajoute à tout cela la montée des inégalités sociales, il faut bien reconnaître que l'on fait face à un monde où les différents types de sensibilités encore cultivées, il y en a tant qui ont été détruites, sont forcées de faire alliance, d'involuer. Bon, c'est un peu costaud là d'un coup, mais du coup il y a deux choses qui me semblent importantes là-dedans, c'est cette question d'involution. Et après, elle donne l'exemple du compost que je trouve hyper parlant, en tout cas pour moi. Et je trouve ça hyper... Enfin, c'est une image qui m'a direct parlé, j'ai direct souligné. J'ai fait, ah ouais, c'est trop ça. Et c'est un truc qui vient aussi nourrir mes réflexions, par exemple, sur le queer et qu'est-ce que ça veut dire, ce mot qui devient aussi comme le concept de post-humanisme d'Haraway, un truc un peu tendancé à la mode. Et du coup... Par exemple, moi, ce genre de bouquin, ça m'aide à penser le queer sur cette question de compost et pas forcément de faire tout le temps évoluer les choses, mais plutôt cette question d'involution. Donc, à partir de l'existant, comment on peut aussi on peut éviter à la fois de reproduire les erreurs qui nous paraissent dangereuses, en tout cas, pour le penser vivre ensemble, tu vois, et comment on peut faire avec déjà, je pense qu'on a déjà tous les outils, tu vois, devant nous. Et comment on peut ensuite recycler et venir en fait défaire des schémas, mais ce qui n'est pas non plus détruire, tu vois, c'est pas déconstruire.
Ouais, mais c'est défaire pour rassembler dans un sens.
Ouais, c'est ça, mais pour recomposer autrement en fait.
Ouais.
Et c'est là où, en tout cas, pour moi, le queer est parlant, et c'est là où, par exemple, là, je refais une sorte de divagation, ça va un peu dans tous les sens, mais finalement, ça se recoupe. Mais c'est pour là, en tout cas, là où le queer est intéressant pour moi, c'est quand, justement, il se passe ça, entre autres. Il y a plein de choses, hein, c'est plus complexe, mais c'est un des éléments, en tout cas, qui me semble... important dans le queer, dans le fait de c'est pas non plus, tu vois, le melting pot et une sorte de tambouille où on met un peu tout ce qu'on veut, etc., mais c'est plutôt une recomposition et un réagencement des choses, mais en fait permanent. C'est pas un réagencement pour recréer une fixité, tu vois, parce que du coup ce serait pas intéressant selon moi. mais ce serait plutôt un réagencement, mais perpétuel, tu vois.
Et ça, c'est quelque chose auquel tu pensais avant d'avoir un investissement dans le queer ou t'as cette notion de rassembler avec ce qui existe déjà en quelque sorte.
Attends, j'ai pas tout à fait
Parce
bien
que, en fait,
compris le sens de la
par
question.
exemple, je me rappelle que quand tu faisais tes performances aux Beaux-Arts, je me souviens plus, je me souviens plus si c'était un travail collectif que tu faisais ou si j'ai en fait j'ai du mal à
Pour le
me.
diplôme de fin d'année, c'était un travail collectif. Il y avait même tout un jeu d'ailleurs sur, ça commençait, donc il y avait toute une série de chaises disposées
Oui.
contre les murs,
Ah
et ça
oui.
commençait, il y avait 5 minutes, c'était les 5 minutes les plus affreuses, les plus stressantes de tout le diplôme finalement, parce qu'après l'échange, ça allait, mais les 5 minutes où il n'y a pas de son et tu sais pas si la personne qui t'a dit genre ouais, vas-y, mets le son, va appuyer sur play. Et du coup, comme c'est 5 minutes de silence, je sais pas si le son va se lancer après ou pas. Enfin, c'était l'horreur. Mais ça commençait par 5 minutes où il y avait entre guillemets rien. Ou en tout cas, les performeurs, et moi je faisais partie aussi des performeurs et des performeuses, on était inactifs. On était juste assis parmi la foule, enfin parmi les gens. Et donc, comme on était disposé, pas tout à fait en cercle, mais plutôt contre les murs de la grande salle, il y avait tout un moment où tout le monde s'observait, se regardait, et vraiment j'avais dit aux performeurs, on ne fait rien de plus que ce que font les
D'être
gens, quoi, d'être là, ouais.
Et c'était un moment de silence qui était vraiment nécessaire, en fait,
Ouais, aussi, ouais, bah, c'était un peu ce moment de presque d'entrée dans le diplôme, tu vois, je sais pas, ou d'accepter la forme qui va arriver, ou je sais pas, une
Ah oui,
sorte de
comme une sorte de
méditation
préparation.
collective,
Ouais.
j'en ai aucune idée, j'ai jamais trop su pourquoi j'ai voulu faire ça, mais c'était aussi parce qu'à l'époque, je me disais, bon, par rapport à ce que je vois, c'est vrai qu'on prend jamais trop le temps d'arriver dans un endroit en tout cas, enfin, tout de suite, ça c'était très vite parti, ou dans une
Ouais.
performance, ou un truc comme ça, où là, je me suis dit, genre, non, là, vraiment.
Mais ce rapport au collectif, il a toujours été présent, en fait.
Ouais, assez, ouais. Assez.
Parce que
Et.
même tout à l'heure, tu disais que tu t'imaginais pas faire une chorégraphie pour une seule personne et que c'est comme ça aussi
Ouais, c'est ça, ouais.
que ce chiffre 3 est apparu pour d'autres raisons aussi
Exactement. Ouais.
qu'on a énumérées. Non, mais c'est intéressant parce que ça aurait pu arriver à. Enfin, j'ai l'impression que c'est beaucoup l'école d'art qui nous amène à penser collectif. Je ne sais pas si tu avais été danseur en ne passant, par exemple, que par le conservatoire, j'en sais rien. Que par le conservatoire, est-ce que ça t'aurait amené à cette forme
Ouais, je sais pas trop, je sais pas trop.
d'être ensemble? Parce que tu as dansé forcément avant d'arriver aux Beaux-Arts, tu dansais déjà?
Bah, je fais de la danse bretonne beaucoup.
Ouais, voilà.
Et
Et les
beaucoup de
danses
gym, des
bretonnes?
années de gym.
Mais les danses bretonnes, c'est des danses collectives.
Ouais, c'est des danses de groupe,
Ouais, de groupe.
globalement, hein, globalement. Parce qu'il y en a énormément, il y a beaucoup de formes très différentes, mais globalement, c'est des rondes, des chaînes ou des. Quoi. Ouais, non, c'est globalement des rondes et des chaînes
Et
de
comment ton
gens.
travail il a évolué avec le mouvement queer?
Alors, je sais pas si. C'est toujours un truc aussi que je me pose. Enfin, là, quand tu dis mouvement queer, j'aurais plutôt tendance à. En tout cas, je sais pas si je suis tout à fait en train de suivre le mouvement queer, etc. Mais c'est plutôt le mot, en tout cas le concept queer, et ce qui peut apporter d'intéressant dans les réflexions et dans justement le penser ensemble, le penser involution ou recyclage, etc. C'est plutôt là où il m'intéresse. Et c'est comment dire? Disons que j'ai une tendance à ne pas appartenir à un seul, tu vois, parce que j'ai fait partie d'un groupe de danse bretonne pendant très longtemps, et c'était un seul truc, enfin, c'était le truc qui régissait presque un peu tout le temps ma vie. Et, mais il y avait toujours quand même un truc à côté, genre la gym et tout ça. Mais c'est en tout cas, comment dire? C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui gravitent, tu vois, autour. Et c'est là où Kim Ingold va m'aider aussi après, plus tard dans la lecture. Mais c'est un tissage, en fait, de ces choses-là. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas envie de me définir que queer ou que performeur ou que danseur ou que ou enfin, j'emprunte enfin j'emprunte
Oui, t'as envie
après on
d'être
va se faire taxer d'appropriation culturelle
un
mais en tout cas il y a des choses qui viennent inspirer ou qui viennent nourrir et justement créer du tissage quoi entre les
Ah,
choses.
tu réunis, c'est des prélèvements en fait, que tu mets au même endroit
Ouais,
dans
bah en fait, c'est cette histoire de compost, en fait,
ouais.
c'est tout un tas de matières organiques, tu vois, qu'on met ensemble et qui, en fait, vont faire une sorte de tout aggloméré qui a régi par ses propres lois, tu vois, et qui, à la fois, est fertile, tu vois, et qui ne prend pas en compte la notion d'individualité ou en tout cas, l'individu est au service du collectif, comme le service est au service de l'individu, mais tout ça, en fait, c'est... Ça rejoint beaucoup ce que je vais lire après dans Tim Ingold, c'est une sorte d'intrication en fait qui est en échange constant. Enfin, il y a pas de et c'est là où le queer a été pour moi aussi intéressant parce que il y a quand même toute une enfin il y a quand même toute une chose autour de la déconstruction des binarités de genre notamment homme-femme etc. Mais du coup avec, par exemple, Stenger, ce que j'ai lu, qui est écoféministe, entre autres, mais voilà, j'ai l'impression que ça se recoupe un peu partout et que ça permet aussi de... Enfin, le queer m'a apporté des outils aussi pour penser autrement aussi mon rapport aux autres, à comment penser collectif et tout ça.
Alors, on peut lire.
Entre autres.
En fait, le live, il va s'arrêter sur du à 20h. Après, nous, on pourra. Enfin, il s'arrête aussi sur Instagram à 20h parce que
Ouais.
c'est limité à 1 heure. On pourra
D'accord.
quand même relancer hein, pour si d'autres personnes aussi veulent continuer à suivre. Si on n'a pas
Yes.
terminé et puis comme la discussion
Ouais,
bah,
bien sûr.
continue. Voilà, juste te préviens, comme il est 49,
Ouais, je vois.
c'est un
C'est vrai que
moment,
le temps passe très vite.
si à un moment je coupe, c'est pour relancer le
Ça
live
marche. Ça
avant
marche. Et en
l'apéro.
parlant de d'écologie, etc., ma petite fierté quand même du moment, c'est la création de papier. Donc j'ai créé du papier. Enfin, j'ai
Mais non,
refait
c'est
du
génial.
papier. Ouais. Donc en fait, il y avait une amie sur Facebook qui a dit, ouais, je me suis lancée dans la réalisation de papier, etc. Et j'ai vu ça, je fais, oh génial, comment on fait? Elle m'a expliqué. Et du coup, là, je passe mes journées à faire ça.
Waouh! Et
Et du coup, j'ai réussi à refaire du papier.
tu nous donneras le tuto à la fin?
Ouais, carrément, avec
Ah, trop!
plaisir. En fait, c'est hyper simple. Hein. Il faut. Bah, je vais vous le donner maintenant.
Allez, vas-y,
C'est
tuto
hyper
papier.
simple. En fait, alors, du coup, le truc, c'est qu'il faut du. Là, j'ai récupéré du papier A4 blanc d'imprimante qui était déjà imprimé, qui servait plus à rien et qui allait nous servir de brouillon, tu vois. J'ai tout. Donc, j'ai les déchiré en plein de morceaux, découpé tout ça. J'ai plongé ça dans de l'eau et j'ai laissé. Bon, je conseille quand même de laisser poser ça au moins toute une nuit entière. Et j'avais fait un pré-mixage avec un robot de cuisine, tu vois, pour faire des soupes. Un pré-mixage le soir même. Et le lendemain, je suis revenu un peu mixer, rajouter un peu d'eau, etc. Et ensuite, ensuite, je prends une grosse caisse que je remplis. Enfin, je sais pas quoi, ce serait quoi les proportions, mais disons qu'il y aurait 60% d'eau claire et 40% de préparation de papier qu'on a laissé reposer toute une nuit là.
D'accord, donc le
Et
papier,
donc
tu
tu
laisses
mélanges
reposer
les deux.
et tu mélanges l'eau et le papier après. Enfin, le
C'est
papier
ça.
qui est déjà
Exactement.
passé sous l'eau, dans un sens.
Oui, qui est déjà en fait ramolli, qui est
Ouais.
en plein de petits morceaux. Donc en fait, l'idée c'est de venir séparer les fibres du papier. Et du coup, tu mets tout ça dans un plus gros volume d'eau. Et puis, bon, bah, s'il y a des gens qui sont intéressés, ou etc., je pourrais vous le dire ça, vous montrer des photos, etc. de l'atelier. Mais ensuite,
mais il faut un mixeur, du coup.
Il faut au moins un mixeur et ensuite il faut prendre, moi j'avais des petits cadres A5 pour genre des petites photos et il y en a un, j'ai fait vraiment avec les moyens du bord, hashtag confinement, tu vois. J'avais une sorte de chemise avec un bas de chemise où il y avait une sorte de organza, un tulle ou je sais pas quoi, je suis venu découper, je suis venu tendre ça autour d'un cadre pour faire un tamis. Et ensuite, il faut, en gros, il faut deux cadres. Il faut un cadre qui sert de tamis et un autre cadre que tu viens poser par-dessus. Donc, tu trempes le tout dans l'eau et toutes les fibres de papier qui sont noyées dans l'eau, comme ça, viennent se déposer sur le tamis. Et donc, tu remontes et ensuite, tu laisses ça sécher. Et tu arrives à reconstituer une feuille de papier.
Mais c'est incroyable. Il faudra que tu fasses une IGTV, là.
Ah ouais.
Ah ouais, s'il te plaît, j'aimerais vraiment voir.
Ça marche. Bah ouais, carrément. Ouais, moi je suis à fond sur ces trucs-là.
Si t'as le temps.
Ok, ça marche. Bah ouais.
Ça sera trop bien.
Ok.
Merci avec beaucoup. Plaisir.
Voilà, bon, bah le papier, donc qui rejoint un peu aussi, tu vois. Genre, tu vois, le queer apporte ça et permet après de réaliser son propre papier.
Mais c'est génial, tu te rends pas compte, c'est incroyable.
Non, mais c'est génial.
Pour faire disparaître des documents, c'est incroyable.
Ah, mais c'est merveilleux. C'est très, très merveilleux. Moi, je suis enchantée.
C'est super. Ça
ouais.
Limiterait les volumes dans les poubelles, tu vois.
Exactement.
Quand je refaisais son papier. Top.
Et puis, on pourra en refaire. Enfin, là, j'ai déjà fait tout ça, tu vois.
Non, mais c'est incroyable.
Il y en a plein d'autres. Mais... Ouais, c'est génial. C'est trop bien. Et c'est pas grand-chose. Hein. C'est de l'eau, du papier usagé et deux cadres et un mixeur. Ouais. C'est mieux d'avoir un mixeur quand même.
Ouais.
Voilà. Comment rebondir sur cette confection de papier artisanal? Peut-être en parlant, je sais pas, parce qu'en même temps j'avais envie de lire Leonora Miano, Habiter la frontière, qui du coup faisait écho avec ce que je disais juste avant sur le queer, etc. Bon, je vais lire juste pas tout, parce que je vais lire juste les trucs que j'ai soulignés, qui me semblent aussi importants, et voilà.
C'est quoi les trucs bleus?
Ah, les trucs bleus, c'est du cyanotype, je pense, que demande Nock. Parce que je me suis mis à ça aussi, là, dernièrement, à fond.
J'ai pas compris, en fait, la question.
Je pense que Nock évoque les cyanotypes parce que c'est un autre truc que je fais en ce moment.
Ah oui, ok, mais que tu n'as pas montré.
Non, je n'ai pas montré.
Ah oui, il y a quelqu'un qui dit que tu peux écrire tes interprétations dérogatoires.
Mais grave. Ben oui, mais j'en ai, hein, c'est pour ça, c'est pour tout le monde. Pour les voisins, tout ça.
Ok.
Voilà. Bon, alors du coup, je raconte un peu ce que raconte, je lis un peu les mots de Leonora Miano sur Habiter la frontière. Voilà, des petites choses. Et du coup, alors ça, c'est un bouquin aussi, c'est des, comptes rendus de conférences, etc., de Leonora Miano. Donc c'est à la fois elle écrit des romans et elle a aussi une pensée que je trouve hyper intéressante justement sur Habiter la frontière. Alors donc Habiter la frontière, paysage francophone, journée internationale de la francophonie, université de Copenhague, Danemark. Tel des astres éteints, mon roman paru en janvier 2008, était en gestation bien avant la trilogie africaine comprenant L'intérieur de la nuit, Les aubes écarlates et Contour du jour qui vient. Ce texte, qui m'est très cher parce qu'il est celui qui aborde le plus clairement les tourments identitaires du monde noir, est dédié aux identités frontalières. C'est par ce terme que je définis habituellement ma propre identité. Je la dis frontalière, ancrée, non pas dans un lieu de rupture, mais au contraire dans un espace d'accolement permanent. La frontière telle que je la définis et l'habite est l'endroit où les mondes se touchent inlassablement. C'est le lieu de l'oscillation constante d'un espace à l'autre, d'une sensibilité à l'autre, d'une vision du monde à l'autre. C'est là où les langues se mêlent, pas forcément de manière tonitruante, s'imprégnant naturellement les unes des autres pour produire sur la page blanche la représentation d'un univers composite hybride. La frontière évoque la relation, Elle dit que les peuples se sont rencontrés quelquefois dans la violence, la haine, le mépris, et qu'en dépit de cela, ils ont enfanté du sens. Ma multi-appartenance est porteuse de sens. Elle rappelle à ceux qui croient en la fixité des choses, des identités notamment, que non seulement la plante ne se réduit pas à ses racines, mais que ces dernières peuvent être rempotées, s'épanouir dans un nouveau sol. Une plante peut également croiser ses racines avec celles d'une autre et engendrer un nouvel être vivant. Le monde auquel nous appartenons est d'abord celui que nous portons en nous. Voilà, en gros. Il y avait peut-être un autre passage, je ne sais plus trop. Non, c'était ça essentiellement, qui me semble, qui vient aussi du coup, justement, lier Isabelle Stengers avant et aussi cette question de la frontière et des êtres frontaliers sur cette question des chemins égarés, le livre sur les rencontres sur le cruising, quoi. Et du coup, je trouve vraiment intéressant. Donc, elle développe ce qu'on dirait, je sais pas, la pensée noire ou une pensée noire, où elle repense tout ça. Donc, ce bouquin est vraiment hyper intéressant parce qu'il nous donne aussi plein d'outils. Tu vois, moi, par exemple, il y a plein de questions sur les personnes racisées que je n'ai pas du tout, et c'est un bon premier. Enfin, ça m'aide aussi à penser la complexité des êtres et tout ça, autre que par mon prisme, tu vois, de mec blanc, quoi. Donc voilà. Mais il y a aussi un truc qui se recoupe vachement avec, enfin, que moi en tout cas me fait écho sur le queer, etc., sur les univers composites hybrides, sur aussi la frontière qui évoque la relation, et elle, quand elle se dit qu'elle a une identité frontalière, finalement, là, je me suis assez... Enfin, ça m'a parlé beaucoup, en tout cas. Je me suis dit, genre, ah ouais, c'est assez comme ça que j'ai l'impression de vivre les choses, tu vois.
Ouais, parfois, d'être... j'ai l'impression qu'on vit des choses... Et on n'a pas les mots, enfin on vit des choses où on pense des choses de nous-mêmes, où on pense des choses du monde, enfin bref, on a des pensées quoi. Et en fait, on a quand même du mal à dire, à mettre des mots dessus. Et c'est fou comme parfois les livres, je trouve, il y a des vérités comme ça qui éclatent et tu te dis, mais c'est exactement ça que je cherche à dire
depuis exactement, longtemps. Ouais.
C'est et ça. En fait, ça arrive maintenant et cet auteur-là m'a enfin donné les mots pour le dire, tu vois.
Carrément, carrément.
Et ça, c'est des bons moments de lecture.
Ah, mais tellement. Ouais. Ça, c'est hyper, c'est assez, assez jouissif, quoi.
Alors, ça va couper dans une minute. Alors, on relance le live tout de suite avant que Instagram le décide.
Ok, ça marche, on fait voilà, ça.
Voilà, qu'on ait encore un peu ce pouvoir.
Oui, parce qu'il y avait un dernier truc au moins que j'avais envie de lire, et un dernier livre dont j'ai vraiment...
Oui, non, mais on a le temps, ouais. Hein, c'est juste là, Instagram est dû. Merci aux auditeurs de Dû Radio.
Ouais, merci beaucoup à ceux ceux et celles qui sont là.
Voilà, et demain ce sera la dernière émission pour Very Book. Alors à demain. À tout à l'heure, enfin à tout de suite.
Ouais, à tout de suite.